Oui, c'est 10 000 en Belgique. Ah, je me marre. Probablement à cause de la censure médiatique de votre régime, ne savez-vous pas la dernière de votre président? Après les clients de l'Intermarché, les nabos figurants lors d'une visite d'usine. Bon, maintenant, après avoir élu un type pareil, c'est fini les blagues sur les Belges. Hein. Maintenant, ce sera le français, le roi des cons. On est bien d'accord?
Allô, Daniel. Allô, toute l'équipe. Là-bas, si j'y suis, là. Bon, ben, je vous appelle là des hauts cantons de l'Hérault, là, de Saint-Pons-de-Thomières, là, bon, suite à cette histoire de corbeau qui envoie des balles là, au président, ou je sais pas, des élus. Bon, on n'en a rien à foutre, de toute façon. Ils ont déboulé, là, jeudi 3 septembre, là. Je sais pas comment ils étaient très nombreux, là, des flics, là, des antiterroristes, voilà. Donc, bon, bien sûr, tout le monde, bon, 20 personnes en garde à vue à Montpellier, plus 20 personnes qui ont été perquisitionnées, c'est l'horreur, on vit l'horreur dans la vallée, quoi. Voilà, et bah, ici, on vit de jardins et de chansons, et on est, bon, je sais pas, on est tranquille, quoi, puis on défend nos idées, et puis c'est tout, quoi.
Bon, alors, au Gabon, c'est le bordel, il paraît, hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est que personne ne se pose la question de savoir pourquoi on a un contingent là-bas. Est-ce qu'il y a un contingent gabonais en France, par exemple? Hein? Ça, pas du tout. Donc voilà, on nous dit que la France-Afrique, ça n'existe plus, qu'il n'y a pas de souci, la France n'intervient nullement dans les affaires gabonaises. Mais quand même, on a 1000 militaires sur place, prêts à intervenir au cas où les gentils pétroliers soient en difficulté. Quant à M. Mamer, que je viens d'entendre sur France Inter, je serais bien curieux de savoir, parce que là, bon, évidemment, c'est facile, hein, il dit que Gbagbo, c'est une crapule et tout, ce qui, là, je suis entièrement d'accord avec lui, seulement, je pense que s'il était aux affaires françaises, au gouvernement, son discours serait certainement plus modéré, puisque de toute façon, c'est une histoire de gros sous, et que, comme disait Gbagbo père, la France a les voitures, et le Gabon a l'essence. Voilà. Allez, ciao.
Jacqueline de Bordeaux, j'ai 81 ans et j'ai passé toutes mes vacances de jeunesse à Uzest. Alors aujourd'hui, quand j'ai entendu Daniel parler des culs blancs et des culs rouges, je n'en suis pas revenue. Quel bonheur cette période. Les staminettes, quand il y avait le bal sur la place, à minuit, on donnait le rafraîchissement et tout le monde se précipitait à l'estaminette pour manger le tourin à l'oignon. Quel bonheur d'avoir appelé tous ces souvenirs. J'ai connu les bals clandestins où on dansait dans les granges alentours avec la lueur de la lampe à acétylène. Merci pour tout ce moment.
Les bals clandestins et la lampe à acétylène, c'est beau, hein, cette mémoire et ces souvenirs. Merci pour ce message qui suit le reportage de vendredi. Et puis merci pour tous ces messages. Aujourd'hui, on retrouve comme chaque mois depuis je ne sais combien d'années l'équipe du Monde Diplomatique, le mensuel Monde Diplomatique, autour de ce numéro de septembre avec deux papiers dont il ne sera pas question. Je vais parler de papiers dont on ne parlera pas. L'un sur la psychose de la grippe qui nous hante beaucoup en ce moment, vu comme un miroir des sociétés. Et puis l'autre thème sur la crise économique. Et la réponse est dans le titre, la grande illusion. Et c'est assez intéressant de voir que d'un côté, la grippe donne lieu à toute une fantasmagorie et à des grandes, grandes inquiétudes qui ont toute une histoire. Hein, si on songe à la grippe espagnole de 1918 qui a fait 30 millions de morts dans le monde et d'ailleurs notamment en Chine, on comprend que c'est là quelque chose qui ne peut que développer des inquiétudes, des peurs. Et on sait ce que c'est que l'inquiétude et la peur, c'est quelque chose qui est facilement exploitable. Et puis d'autre part, on a cette quelque chose qui est censé nous rassurer, c'est la crise. Mais de quelle crise vous parlez? Tout va bien, tout va mieux. Et je suis pas sûr que ça soit fait pour nous rassurer. En tous les cas, il y a deux papiers dans ce diplo qui sont passionnants. Mais il y en a beaucoup d'autres, et c'est parmi ces autres articles de ce mois-ci que nous allons nous promener aujourd'hui jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Avant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
J'ai oublié de vous raconter ça. Alors, hier dimanche, je passe chez le marchand de journaux, au tabac presse, là, je vais. Et puis je regarde, comme j'ai l'habitude de le faire, les titres des journaux. Et je vois le titre du journal du dimanche. Alors c'était, en gros, c'est un titre qui annonçait les hausses qui vont arriver, là. Les hausses des prix. Alors, plus 6% pour le prix des cigarettes, plus 25% pour le forfait hospitalier. Le forfait hospitalier, c'est ce qui est à la charge du patient, hein, c'est-à-dire qu'il passerait de 16 à 20 euros à contribution aux frais d'hospitalisation. Voilà, je croyais que la Sécu, ça servait à ça, mais bon. Et puis, augmentation du déremboursement de certains médicaments. Très bien. Puis alors, vous savez, comment c'est les journaux dans les présentoirs, là, dans les tourniquets, ou même quand ils sont présentés à plat, c'est plié en deux. Alors, on voit que le haut de la page. Et en dessous de ces titres, je vois, c'est grave. Je me dis, tiens, c'est intéressant, un journal qui trouve que c'est grave. Et alors, j'ai déplié le journal et je vois que c'est grave, ça s'est rapporté au résultat de football France-Roumanie, parce que la France n'avait pas battu la Roumanie. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire, quand même. Je me dis, voilà, bon, ben, les journalistes, ils peuvent annoncer que, froidement, que le forfait hospitalier va augmenter de 25%, que les médicaments vont être de moins en moins remboursés. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est le truc, c'est de l'information. Voilà, il faut dire aux gens, ça augmente. Mais, donc, on est en train de... que le gouvernement et le pouvoir actuel est en train de détruire, en fait, ce qui crée le tissu social, la collectivité, le sens de la collectivité, de la solidarité. Mais on a trouvé la parade pour la solidarité, tous derrière l'équipe de France de foot. C'est ça, la solidarité. On vous prend pour des cons, et alors vous allez tous vous enthousiasmer pour les résultats de l'équipe de France de football. Comme ça, vous aurez l'impression d'appartenir à une communauté.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Un court message pour annoncer la reprise du repère de Saint-Péret en Ardèche, ce soir lundi 7 septembre, à 20h, à l'hôtel Badet, comme d'habitude. Venez nombreux, on vous attend. À ce soir, ciao.
Salut, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique. Pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique autour de ce numéro du mois de septembre. Et on va commencer avec Serge Halimi, qui s'inquiète des lobbies, de la tyrannie des lobbies aux États-Unis, qui... donne bien du fil à retordre à votre ami Barack Obama, que décidément vous soutenez tous ardemment. Dans le papier de Maurice Lemoine, c'est pas de la faute à Obama si on a eu ce coup d'État au Honduras. Il s'en expliquera un petit peu plus tard. Alors pour l'instant, déjà, la tyrannie des lobbies aux États-Unis.
Je crois que dire qu'on le soutient ardemment, c'est tout de même un peu excessif. Je pense que vos auditeurs enfin, le découvriront s'ils ne le savent pas déjà. Mais on se souvient qu'il a été élu président des États-Unis avec un objectif majeur en matière de politique intérieure, qui a été de réformer le système de santé américain, qui a cette caractéristique particulière d'être sans doute le plus cher et l'un des plus mauvais du monde occidental. Il est élu assez largement, il dispose d'une majorité dans les deux chambres du Congrès, donc on peut penser que la réforme va se faire. Or, pour le moment, elle ne se fait pas et elle est en mauvaise passe. Alors, il faut peut-être expliquer ce qu'est le système de santé américain. Il est très compliqué et, à mon avis, c'est à dessein qu'il est compliqué, parce que quand il y a une entourloupe, il vaut mieux que ce soit incompréhensible. Il est composé, en fait, de trois étages, de trois éléments. Le premier, c'est un système d'assurance publique. Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes pauvre et que vos revenus sont en dessous du minimum vital, si vous êtes militaire, pompier, élu du Congrès, vous disposez d'un système d'assurance publique, de remboursement public, qui marche assez bien, mais qui est assez...
C'est Medicare.
Medicare, c'est pour les plus de 65 ans, il y a Medicaid pour les pauvres, et puis il y a divers systèmes publics pour les militaires, pour les pompiers et pour les autres. Deuxième étage, qui concerne la majorité des Américains, celui-là, l'assurance auprès d'une compagnie privée, en général payée par l'employeur. La plupart des Américains, quand ils sont salariés dans une entreprise, avec leur salaire, disposent d'une assurance qui est payée par leur employeur et que naturellement leur employeur leur fait en partie payer. Ce qui veut dire plusieurs choses quand votre assurance dépend de votre emploi. C'est que si vous perdez votre emploi, vous perdez votre assurance. C'est pas négligeable, surtout en ce moment. Deuxième chose, dans le cas des assureurs privés aux États-Unis, les primes sont très élevées et de plus en plus élevées. L'une des raisons qui fait que ces primes sont très élevées, c'est que c'est un système où des lobbies se font concurrence. Et comme ils se font concurrence, ils dépensent beaucoup d'argent en communication pour dire « on est meilleur que l'autre ». Et naturellement, cet argent qu'ils dépensent en communication, c'est en dernière analyse l'assuré qui le paie. Troisième problème de ces assurances privées, quand vous tombez malade, ça peut vous arriver de tomber malade, vos assureurs n'aiment pas ça du tout. Donc très souvent, ils vont dépêcher des avocats, des médecins, des juristes qui vont aller fouiller dans votre histoire médicale pour trouver le détail qui permettra de dire « Ah, mais quand vous avez signé votre prime, vous ne nous aviez pas dit que vous avez consulté un dermatologue il y a 25 ans. » Et dans certains cas, quand vous avez un traitement dermatologique, ça peut induire un cancer 25 ans plus tard. Par conséquent, vos soins, vous vous débrouillez. Vous avez signé une fausse déclaration, nous, on n'assure pas vos soins. Et des sommes très importantes sont investies dans ce genre de travail. C'est pour ça aussi que le système américain est coûteux. D'une part, il y a la concurrence, et d'autre part, il y a ce travail de gens très intelligents, dont le principal objectif est de ne pas vous assurer quand vous tombez malade. Donc ça, c'est le deuxième système, le système qui couvre la majorité des Américains, l'employeur qui paie une prime d'assurance auprès d'une compagnie privée. Troisième système, vous n'avez pas d'assurance du tout. Ça, c'est le cas de 50 millions d'Américains environ. Vous n'avez pas de travail, ou bien vous êtes un salarié individuel qui n'a pas les moyens de s'assurer, ou bien plus souvent, vous travaillez dans une PME et votre patron ne souhaite pas vous assurer ou n'a pas les moyens de le faire. Donc ce système américain est composé de trois éléments, un système public, un système privé assuré par votre employeur.
Et pas de système.
Et pas de système du tout. L'objectif principal d'Obama, ça a été de veiller à ceux qui n'avaient pas d'assurance du tout. Et de dire, désormais, il faut qu'on ait un système universel. Bon, donc rendre l'assurance obligatoire. Ceci dit, le problème, c'était si on rend l'assurance obligatoire sans rien changer au reste, ça va être une aubaine pour les assureurs privés qui vont dire « Ah tiens, on a 50 millions de clients qui n'auront pas d'autre choix que de s'adresser à nous. » Alors Obama dit « Bon, très bien, on va rendre l'assurance obligatoire, les assureurs privés restent en place, mais nous, on va créer un système public. » On va créer un système public qui fera concurrence aux assureurs privés. Et c'est là que ça coince. Et c'est là que la grande bataille est engagée. Parce que la droite et une partie des élus démocrates les plus modérés disent « Ah oui, mais ce système public, nous, on n'en veut pas. Il va imposer une concurrence déloyale aux assureurs privés. » On peut trouver que c'est quand même un souci assez extravagant compte tenu du système américain de santé que de se dire « Il faut d'abord veiller aux intérêts des assureurs privés. » Mais ça va causer une concurrence déloyale, ça va donc remettre en cause le système capitaliste de libre entreprise, l'américain, l'entrepreneur individuel. C'est bien ce qu'on vous disait, ce Obama est un socialiste. Et donc vous avez eu cette campagne complètement extravagante ces dernières semaines de gens qui disaient « Mais on n'est pas l'Union soviétique, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce système public ? Je ne parle même pas des Obama égale Hitler. » Bon. Deuxième
oui, mais thème. Ça, c'est la partie vraiment deuxième excessive. Quel est l'état de l'opinion par rapport
bon,
à ça?
Il y a une partie de l'opinion qui est chauffée à blanc par les chaînes de droite, les radios, Rush Limbaugh, Fox News, qui croient vraiment que le système américain de libre entreprise est mis en cause et que cet assureur public qu'Obama et certains démocrates veulent mettre en place, ça n'est que la première étape. Et qu'après, c'est la route de la servitude, ce système public sera de plus en plus important, les systèmes privés vont péricliter, et il y a donc un danger. Deuxième thème de la droite, nous, on ne veut pas payer pour les autres. Vous nous dites qu'il y a 50 millions de gens qui n'ont pas d'assurance, bon, c'est vrai, c'est dommage, etc. Mais si on les assure, ces gens-là, qui va payer? Ceux qui ont une assurance. Donc la majorité des Américains. La majorité des Américains va devoir payer pour la minorité. Or, pourquoi devrais-je payer pour la santé des autres? Alors là, il y a plusieurs réponses qui sont évidentes, qui sont premièrement parce que c'est aussi votre intérêt égoïste. Si les autres tombent malades, les risques sanitaires sont plus grands pour vous-même. Deuxièmement, parce que, dans la plupart des cas, tomber malade n'est pas quelque chose qui sanctionne un mauvais comportement. Donc, si vous imposez la charge financière à l'individu qui tombe malade, parce qu'il est victime d'amiante, de pollution, d'intoxication alimentaire, de maladies génétiques, bon, ben, y a tout de même une orientation que même les plus libéraux auraient du mal à recommander. Et puis enfin, pourquoi devrais-je payer pour les autres ? La réponse, c'est parce que vous le faites déjà. C'est le principe même de l'assurance, qu'elle soit publique ou privée, de répartir des coûts qui peuvent être catastrophiques pour un individu donné sur un nombre plus large de contributeurs. Sinon, alors le système, c'est un système de libéralisme fou, mais que personne ne peut vraiment recommander. Chacun paie ses soins, il n'y a ni assurance publique ni remboursement, et c'est la faillite ou l'absence de traitement en cas de maladie. Donc voilà en quelque sorte les grands thèmes de cette campagne qui est lancée contre Obama pour s'opposer à la création d'un assureur public. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il est tout à fait possible que l'assurance soit rendue obligatoire pour les 50 millions d'Américains. Qui n'en ont pas. Mais si cette mesure ne s'accompagne pas de la création d'un assureur public, à laquelle s'oppose un certain nombre d'élus démocrates, modérés ou de droite, eh bien ce sera une aubaine pour les compagnies d'assurance. Or, les compagnies d'assurance sont vraiment à la manœuvre dans cette affaire. Récemment, l'économiste Krugman rappelait qu'en 1970, les primes d'assurance représentaient 1,5% du PNB américain. Aujourd'hui, c'est 5,5%. Beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et beaucoup, beaucoup plus d'argent aux États-Unis, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus d'influence, beaucoup, beaucoup plus de pouvoir politique. Et les assureurs privés dépensent chaque jour 1 400 000 dollars pour faire du lobbying auprès des élus du Congrès.
Et Obama n'a pas forcément gagné contre le Congrès.
Il n'a pas gagné, il ne peut pas faire passer une loi s'il n'a pas le soutien des parlementaires.
Voilà.
Or, les Républicains vont être...
C'est une grande différence avec la France. Oui.
Les Républicains vont être massivement contre... Et une partie des démocrates qui sont élus dans des circonscriptions très disputées et qui ont parfois un électorat conservateur et qui, comme ils sont élus dans des circonscriptions très disputées, dépensent beaucoup d'argent pour leur campagne électorale, ces élus-là ne veulent pas se priver de l'argent du lobby des assureurs, du lobby des médecins, du lobby, etc., tous ces lobbies qui bénéficient de ce système de santé qui est certes mauvais pour la majorité des Américains, mais qui est très bon pour les assureurs privés. Et donc vous avez un certain nombre de parlementaires démocrates, dont le président de la Commission des Finances du Sénat, qui ne veut pas de l'assureur public. Et encore une fois, s'il n'y a pas d'assureur public, cette réforme aura pour avantage que tous les Américains seront assurés, mais aura pour inconvénient qu'elle aura constitué une énorme rente versée au lobby des assureurs, aux assureurs privés, qui déjà représentent une force particulièrement parasitaire dans la société américaine.
قبريرا سبحانه مرة شبيلة حيرته مرة خفيفة هوته مقعاقة إيشك مقعي قوة شرف شرف حاجي ويان أقل الله حريخته لنع بنك الجوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلوم بدني هذو حاج كجيرة حسوس بدني صاحب تاع عشق بديلي وقدم بيستنا أنا يقيلوبة وقوبنا بحن ونقي أردني نبض بريني مريكن والاقى سوايي مريكن والاقى سوايي مريكن والاقى سوايي مريكن My conscience is of thee Sweet land for robberies Dope smoking SUVs Red meat and army greens Fat and frills Drills and spills Eat and sleep Pump and kill Shop to your job Work to your dead Get all you can Then get in the wind Out of my face On your knees Sleep in the mansion Shout out the streets Make that cake Whip that trick Lick my swagger Suck my sick Get high, get low, get sticky, get rich Get your own show, get down, get quick You slow, you blow, you broke, get fixed Terra Dome, home swag home Terra Dome, home swag home Home swag home, home swag home Marekin, wala ga suwaye Marekin, wala ga suwaye
Na 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 That shit was cool in English, but give me that smiley verse.
قبر يا رب سبحانه مرة شبه لحيرته مرة خفيفة هوته مقع عاقة إيشك مقع إيقو وشرف شرف حاجي ويا أقل هذا حريرته دينا عبانك الجوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلوم بدني هذو حاجك جيرة حسوس بدني صاحب تاع عشا عشق بيت بيلي وقدم بيستنا أنا يقيلوبة وقوبنا بحن.
On continue avec le numéro de septembre du Monde Diplomatique avec Maurice Lemoine qui se penche sur la situation au Honduras et qui voit là des relents de guerre froide. Est-ce qu'on peut nous avoir des explications, Maurice, de ce qui se passe là-bas dans ce beau pays ?
Si vous insistez, oui. Si vous insistez, oui. L'Honduras, c'est a priori, c'est un petit pays auquel on s'intéresse guère. Hein. C'est le prototype de la República Banana, hein, république bananière depuis le fin du 19e siècle, où a beaucoup œuvré la United Fruit, la fameuse pieuvre verte de Miguel Ángel Asturias. Et on vient d'assister en juin dernier, le 28 juin, à un coup d'État. Hein. Alors c'est pas le premier, hein, entre parenthèses, il faut quand même le rappeler. Il y a eu le avril 2002 au Venezuela, il y a eu la tentative de déstabilisation d'Evo Morales en septembre de l'an dernier. Donc, sauf que là, on a affaire à un petit pays, ça s'est passé beaucoup plus facilement. On a récupéré le président, on l'a mis dans un avion en pyjama et on a été le déposer sur une piste d'atterrissage au Costa Rica. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, je veux dire, c'est le prototype de ce qui se passait à l'époque des républiques bananières, c'est-à-dire que le président Zelaya, il y a de ça, en décembre 2008, a augmenté le salaire minimum, qui est passé de l'équivalent de 126 euros à 202 euros. Ça a évidemment déplu au patronat hondurien, comme ça déplairait à tous les patronats. Ça a déplu aux multinationales, en particulier, il y en a une qui est intéressante, qui s'appelle la Chiquita, qui produit de la banane, qui produit de l'ananas, et qui auparavant s'appelait United Brands, et qui auparavant s'appelait United Fruit.
Ah.
Oui, on retrouve les mêmes protagonistes. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la Chiquita, elle a été condamnée en 2007 à, si je ne me trompe pas, 25 millions de dollars d'amende aux États-Unis pour ses liens avec les paramilitaires en Colombie. Et il se trouve qu'à l'époque, l'avocat de la Chiquita s'appelait Eric Holder, qui est aujourd'hui ministre de la Justice aux États-Unis. On trouve des liens comme ça. Alors vous allez me dire Obama or not Obama. Pas forcément Obama. Obama n'avait absolument...
Non mais vous le défendez dans votre papier, c'est pour ça que je dis ça tout à l'heure. Oui mais il n'est pas au courant. Barack n'est pas au courant, ça se passe dans les écuries.
En gros, je crois qu'on s'imagine qu'un chef d'État arrive dans le bureau ovale ou à l'Élysée, ou enfin l'Élysée, j'en sais rien, mais, et puis que d'un seul coup, il peut tout changer. Serge vient de nous expliquer les difficultés que peut avoir un président qui a des idées réformistes pour les mettre en place dans son propre pays. Alors imaginez au Honduras, il y a une machine, il y a le Pentagone, il y a des réseaux qui ont été constitués. Zelaya est soutenu d'emblée par quasiment tout le monde. L'Organisation des États américains, l'ONU, les gouvernements de l'Union européenne, qui insistent sur son retour. Et là, on va assister à un petit tour de passe-passe, puisque l'Organisation des États américains, qui était en charge du cas, va se voir déplacée gentiment par Hillary Clinton, hein, qui est la ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et on va remettre le cas entre les mains du président costaricien, j'ai toujours un doute avec ça, Oscar Arias, qui est un ami des États-Unis. Et la médiation d'Arias va arriver à une conclusion très intéressante, c'est qu'à la fois on condamne le coup d'État, mais on prévoit qu'on va restituer le président Zelaya, mais avec des pouvoirs réduits jusqu'à la prochaine élection. Qu'est-ce qu'on regarde quand on voit les négociations qui sont menées à San José de Costa Rica? C'est qu'il y avait dans la délégation de Micheletti, qui est le dictateur, le président de facto, deux personnages intéressants. L'un qui s'appelle Bennett Ratcliffe, qui a travaillé pour le président Bill Clinton. Et puis Lenny Davis, qui a été lui aussi conseiller de Clinton, qui a été porte-parole de Clinton pendant l'enquête sur le financement de sa campagne électorale et pendant l'affaire Monica Lewinsky, et qui a été au cœur de la machine électorale de Hillary Clinton dans sa bataille contre Obama pendant les primaires. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a des contradictions. Et ça veut dire qu'effectivement, la question Obama ou Matt Obama n'a pas beaucoup de sens.
Non, mais on avait l'impression que les États-Unis s'étaient désengagés un peu de la scène en Amérique latine,
avec justement le Venezuela, la Bolivie, etc.
Voilà, effectivement.
C'est le retour.
C'est le retour de l'appareil, de l'empire. On a écrit il y a quelques mois de ça un papier dans le.
Le retour de l'empire.
Non, pas du tout, mère. Mais vous êtes caricatural.
c'est vous qui venez de le dire, mon cher Lemoine. Le
journaliste. Non, on avait écrit un papier qui s'appelait Les présidents changent, l'empire demeure.
C'est pas mal non plus.
Bon, qu'est-ce qui se passe avec le Honduras, ce petit pays qui menaçait personne, même en imaginant que le communisme soit arrivé au Honduras? Franchement, qui ça menace le Honduras? Pas la Floride quand même. On a la réponse dans une déclaration qu'a fait le commandant en chef de l'armée. Je la cite. Les forces armées du Honduras ont stoppé le plan expansionniste d'un leader sud-américain qui voulait imposer un socialisme camouflé sous la démocratie. Alors d'ailleurs, c'est assez marrant quand même, un socialisme camouflé sous la démocratie. Je veux dire, si quelqu'un est élu, ce qui n'est pas le cas de Zelaya d'ailleurs, entre parenthèses, pour mener une politique socialiste, c'est pas camouflé sous la démocratie, c'est avec l'appui et toute la force de la démocratie. Et évidemment, qui est ciblé dans cette déclaration, c'est le Venezuela de Hugo Chavez. C'est pas uniquement le Venezuela de Hugo Chavez, il faut pas tout ramener au Venezuela de Hugo Chavez, c'est le fait que le président Zelaya avait fait intégrer le Honduras au sein de l'Alliance bolivarienne pour les peuples des Amériques, qui est ce bloc constitué par le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, la Bolivie, plus quelques petits pays. Et en fait, effectivement, on perçoit derrière ça l'inquiétude de voir la gauche petit à petit gagner de l'espace en Amérique latine, y compris dans des pays de ce qu'on a appelé traditionnellement l'arrière-cour. L'intégration du Honduras dans l'ALBA est particulièrement intéressante. C'est pas Chavez qui est allé chercher Zelaya, contrairement à ce qu'on a beaucoup écrit. C'est Zelaya qui a demandé l'aide de Chavez. Il a demandé l'aide de Chavez lorsqu'il a lancé un appel d'offres au Honduras pour que le monopole qui avait un certain nombre de sociétés multinationales sur la distribution et le commerce du pétrole, hein, des combustibles. Il y a ExxonMobil, il y a Shell, il y en a deux ou trois comme ça. Et donc il a lancé un appel d'offres. Et là, il s'est heurté un peu comme Obama avec sa réforme de la santé, à une opposition interne. Et du coup, il a dû reculer. Et à ce moment-là, il a fait appel au Venezuela pour recevoir, dans le cadre de l'accord Petro-Caribe, du pétrole à des prix inférieurs au prix du marché. Donc on a une offensive majeure contre l'ALBA à partir de son maillon le plus faible. Et en même temps, on voit se déployer en Amérique latine cette offensive majeure qui en fait est contre la gauche en général, avec ce qui a constitué la grande nouvelle des dernières semaines, l'installation de cette base militaire en Colombie, cette base militaire américaine. Alors on peut pinailler sur les termes, sur c'est pas vraiment des bases américaines, ils peuvent juste y venir, etc. Mais en tout cas, ça inquiète. Non seulement le Venezuela, bien sûr, qui a 2300 km de frontière avec la Colombie, mais ça inquiète également tous les pays de la région qui se sont réunis au sein de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, avec comme chef de file, entre autres, le président Lula, qui est un peu notre enfant chéri. Hein, c'est pas un gauchiste radical, c'est pas Chavez.
Non, c'est un ami, on va lui vendre des rafales.
On va lui vendre des rafales et un sous-marin nucléaire. Mais c'est lié. C'est lié d'une certaine manière. Je dirais que c'est pas la chose qui me scandalise le plus dans la politique française vis-à-vis de l'étranger. Puis dire Lula est inquiet. Pas Lula, le Brésil est inquiet, pas uniquement Lula, parce que vous savez que d'énormes gisements de pétrole viennent d'être découverts au large des côtes brésiliennes. C'est comme par hasard la zone au-dessus de laquelle croise la 4e flotte américaine qui vient d'être réactivée, et les bases américaines en Colombie inquiètent, y compris le Brésil, sur l'instrument que ça pourrait être pour le contrôle de la région, y compris le contrôle des ressources stratégiques. Donc l'Amérique latine est inquiète, il faut le dire. Ce qui est notable, c'est que, d'une certaine manière, elle fait front commun, hein, à l'exception de Alvaro Uribe, le président colombien, et puis du président péruvien Alan Garcia. Et elle a demandé aux États-Unis de se réunir avec les États-Unis en tant que UNASUR pour discuter. Et jusqu'à présent, la réponse a été, venant des porte-parole du département d'État, c'est un accord qui ne concerne que la Colombie et les États-Unis. Circuler, rien à voir.
Alors on vient de parler de démocratie, pas mal hein, quand même là, avec Serge Halimi et Maurice Lemoine. Ben il n'y a pas qu'aux États-Unis, dans les Amériques, on parle de démocratie, aussi en Allemagne. En Allemagne, on s'inquiète du traité de Lisbonne, et on voit là comme une sorte de déficit démocratique.
Mais la Cour constitutionnelle allemande a rendu un arrêt qui est passé pratiquement inaperçu en France. Elle a rendu cet arrêt le 30 juin sur la constitutionnalité du traité de Lisbonne, donc au regard de la constitution allemande. Et ce qui est intéressant, c'est que les juges très sérieux de Karlsruhe disent d'un côté le traité est compatible avec la constitution allemande, mais de l'autre côté, il y a une condition pour qu'il soit vraiment compatible, c'est que le Parlement allemand adopte une loi qui renforce ses pouvoirs sur les évolutions de la construction européenne. Et pourquoi ils disent ça, les juges constitutionnels allemands? Parce qu'ils disent qu'il y a un déficit démocratique structurel dans la construction européenne. Ils emploient eux-mêmes l'expression. Et donc, comme la construction européenne n'est pas démocratique, il faut que le peuple allemand garantisse ses droits sur ce qui se passe, sur les évolutions institutionnelles et politiques de la construction européenne. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que ce sont des juges, donc des gens qui sont compétents sur toutes les questions institutionnelles, qui font un démontage technique précis du fonctionnement des institutions européennes et qui démontrent ce que certains disent depuis très longtemps, mais qu'on accuse d'être des anti-européens primaires. Ils expliquent, les juges, pourquoi ce fonctionnement n'est pas démocratique. Et en particulier, les juges disent que le Parlement européen n'a de Parlement que le nom, étant donné qu'il n'y a pas notamment de peuple européen, et que le Parlement européen n'est pas en mesure, de par son fonctionnement et son mode d'élection, de représenter valablement les peuples européens, et que pour l'instant, le lieu normal de la démocratie, ça reste le cadre national. Que par conséquent, il faut que le gouvernement allemand et le Parlement allemand puissent conserver tous les moyens de contrôle sur les évolutions institutionnelles futures de l'Europe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça valide juridiquement une critique grave, l'absence de démocratie dans l'Union européenne. Et d'autre part, ça montre...
On s'en était un petit peu aperçu.
Oui, on le disait...
Mais là, ça prend un caractère.
Voilà, on nous disait, c'est des arguments de tribune, vous êtes des anti-européens primaires, etc. Là, on a des gens qui sont des juges très sérieux qui font une analyse pointue de ce phénomène, qui est grave parce que ils ont été interrogés sur le traité de Lisbonne et ils disent le traité de Lisbonne prévoit des accroissements de compétences certains de l'Union européenne et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de contrôle démocratique. Et cet arrêt, il vient un petit peu jeter une lumière crue sur ce qui a été fait dans les autres pays, notamment en France, que nous, notre Conseil constitutionnel n'a rien dit. Ça jette une lumière crue, d'une manière générale, sur la légitimité démocratique de la construction européenne. Parce qu'on a vu que les derniers traités étaient adoptés par des parlements, qu'on faisait de moins en moins appel au référendum. Donc c'est intéressant de voir que la construction européenne est... mise en accusation, mais disons interrogée sur ses fondements, sur ses fondements démocratiques.
On continue avec le diplôme de septembre. Et là, c'est un papier, un article de Daniel Linhart. Alors, on ne sait jamais s'il faut dire Linhart ou Linhart, mais on peut dire les deux. Vous m'avez dit. D'accord, on peut dire les deux. Et c'est sur le travail. Et c'est passionnant, ce papier, parce que ça tourne autour du public et du privé. Et actuellement, ce que vous observez, ce que tout le monde observe, c'est que dans le secteur public, on nous dit qu'il faut l'efficacité, la rentabilité, les performances du privé. Et dans le privé, on dit aux gens, oui, mais il faut des valeurs d'investissement, de dévouement, etc. Il y a un chassé-croisé comme ça entre ces deux mondes.
Oui, je trouve ça assez frappant. Et je dois dire que je trouve ça très préoccupant d'un point de vue sociologique, parce qu'il y a deux choses qui sont préoccupantes. La première, c'est le dénigrement systématique dont souffrent en France, en tout cas me semble-t-il, les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de valorisation par le français moyen du service public en tant que tel, mais une dévalorisation, il y a un dénigrement du fonctionnaire qui serait un privilégié, quelqu'un qui aurait cette chance incroyable de pouvoir bénéficier de la sécurité de l'emploi dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus insécure. Donc il y a une sorte de haro sur les fonctionnaires, sur leurs privilèges, au moment même où ils sont aussi attaqués dans leur ethos professionnel, dans leur éthique. C'est-à-dire que quand on fait les enquêtes dans le monde du secteur public, on est frappé par la capacité à trouver de la noblesse et de la beauté dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont au service du service public. C'est-à-dire qu'ils ne s'estiment pas au service de leur employeur, même l'État ou leur institution, mais ils s'estiment véritablement travailler pour la nation, pour le bien commun, pour l'intérêt général. En tout cas, au service de valeurs qui leur semblent très très importantes. Et parmi ces valeurs, il y a celle de l'égalité de tous les usagers, il y a celle de la continuité du service, et puis il y a celle, évidemment, de l'intérêt général, de l'intérêt commun. Et ce que l'on observe aussi, c'est qu'avec la modernisation du service public, avec l'entrée des valeurs du privé, on voit comment s'effrite considérablement cette éthique professionnelle, et on voit la souffrance que ça génère auprès des agents. Ils ne sont plus en mesure de faire véritablement le boulot pour lequel ils s'étaient engagés, pour lequel ils s'investissent. On leur demande...
Et tout ça, ça se déroule sur les 30 dernières années.
Oui, oui, je dirais depuis 25. 81. Oui, depuis 81, absolument. On leur demande de considérer qu'ils n'ont plus affaire à des usagers, mais à des clients. On leur demande de faire une distinction entre les gros comptes et les particuliers. On leur demande d'accepter qu'il y ait des intérimaires auprès d'eux ou des gens en contrat à durée déterminée. On leur demande de faire du commercial. C'est-à-dire qu'on...
Vous pensez à quel secteur, la Poste, le...
La Poste, EDF, la SNCF, il y a aussi un très très un bon exemple, je dirais douloureux, c'est celui de France Télécom, où on voit se multiplier les suicides. C'est des gens qui sont attaqués à la fois dans leur métier et en même temps dans leur sens de service public. Et je pense par exemple aux lignards, à ces techniciens qui montent pour réparer les lignes téléphoniques et qu'on met dans les centres d'appel, où on les met à faire du commercial et on leur demande de faire des choses qui sont complètement contraires à la fois à leur métier et à la fois à leur sens du service public. Donc là, on voit véritablement...
Alors, tout ça, on leur dit, c'est au nom de la rentabilité. On est désolé, mais maintenant, on n'a plus le choix.
Efficacité, rentabilité, et qui font qu'on entame complètement une sorte d'alchimie porteuse bénéfique qui faisait que des gens qui ont des petits boulots difficiles y mettaient du leur pour en faire quelque chose de grand, quelque chose de désintéressé, quelque chose qui faisait sens et qui leur donnait le sentiment de travailler pour leur société. Voilà. Bon, ça, c'est un point qui est très important. Le deuxième point, et qui fait qu'on est vraiment perplexe, on s'aperçoit que dans le secteur privé, les managers s'efforcent, s'échinent à faire surgir des valeurs qui leur semblent indispensables pour réussir la modernisation et qui sont le dévouement, l'attachement, désintéressé à leur travail, le sentiment d'être porteur de mission, la capacité d'être disponible, flexible, d'anticiper sur ce qu'on attend d'eux. Bref, on leur demande de se dévouer pour leur travail. Mais le problème, c'est qu'on leur demande souvent de faire des choses qui leur paraissent moralement très contestables. On leur demande de servir les intérêts de l'entreprise, souvent au détriment des intérêts de la société. Notamment, si on reprend l'exemple des centres d'appel, les jeunes qui y travaillent sont censés vous fourguer n'importe quoi. Enfin, moi-même, en tant que sociologue, j'ai fait des enquêtes et j'ai pu voir une fois un jeune qui avait réussi à vendre à une dame qui demandait un échelonnement de sa facture parce qu'elle n'avait pas d'argent, une vieille dame, il a réussi à lui vendre un service internet alors qu'elle n'avait pas d'ordinateur. Et lui, il l'avait vendu et était tout à fait ravi parce que ça lui permettait d'avoir des primes supplémentaires. Mais autour de lui, il y avait des anciens et des anciennes qui étaient au bord des larmes d'assister à ça parce que c'est véritablement contraire à leur éthique du travail aussi. Et c'est véritablement problématique d'un point de vue sociologique parce que c'est la société tout entière qui en pâtit, mais c'est aussi l'évolution du rôle du travail dans notre société. Le travail, c'est plus pour uniquement, en tout cas le travail marchand, ça n'est pas pour que la société perdure, ça peut être aussi la mettre en danger, la mettre en difficulté. Alors, bien souvent, les gens voient que ce qu'on leur demande de faire est d'une utilité très limitée, très contestable. Et alors, je dirais qu'il y a une sorte de nouvelle idéologie managériale pour compenser, évidemment, cette difficulté à ce que les gens s'engagent pour quelque chose qui ne leur semble pas légitime. Alors, il y a cette... nouvelle morale du travail qu'on voit dans les chartes éthiques, les codes déontologiques, les règles de vie, etc., qui tend à faire croire aux salariés qu'en se défonçant pour leur propre entreprise, ils vont pouvoir mesurer à quel point ils sont excellents, à quel point ils sont les meilleurs, parce qu'ils sont en permanence mis en compétition avec les autres. Mais on leur dit, regardez, découvrez-vous, vous êtes capable de relever des défis absolument insurmontables, vous êtes merveilleux, et donc c'est joué sur le registre narcissique de chacun. Et là, On peut se demander si à terme ce sont des valeurs qui vont leur permettre de fonctionner à ces salariés du privé, les stimuler suffisamment pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils se défoncent, et on peut s'interroger aussi sur le devenir du travail à partir du moment où il n'est plus une mise en dialogue avec la société, où il n'est plus le lien, le cordon ombilical qui relie chacun à cette société du vivre ensemble. Et je crois que les dimensions de souffrance qu'on voit maintenant émerger à la fois dans le public et dans le privé sont pour beaucoup redevables de ces évolutions managériales des deux côtés.
Continue avec le monde diplomatique de septembre. Et là, on s'interroge sur ce bonheur extraordinaire qui nous guette, qui est celui d'avoir une bibliothèque dans la poche. C'est-à-dire que, voilà, grâce à la numérisation mondiale, globale, générale, la BNM, Bibliothèque Numérique Mondiale, c'est la prochaine étape. Et c'est votre sujet, c'est Cédric Bergini et Guillaume Cardinaux.
Oui, donc dans cet article, on traite de la numérisation, c'est vrai qu'il y a une actualité autour de ça en ce moment avec le débat entre Google et la BNF. Il y a aussi le projet Europeana, donc deux bibliothèques numériques européennes, donc que la Commission européenne a mis en place, qui elle a passé des accords avec Google. Et il y a aussi ce projet, on démarre notre article là-dessus, deux bibliothèques numériques mondiales, donc qui est lancé par le Congrès américain, par l'UNESCO et par 32 partenaires, dont Google qu'on retrouve, qui a investi 3 millions de dollars. Officiellement, en n'attendant pas de retour, c'est un don généreux. Donc voilà, il y a ce problème-là de numérisation, où il y a la volonté, somme toute assez modeste, de numériser tous les savoirs de l'humanité, rien que ça. Parallèlement à ça, il y a le développement de ce qu'on appelle le e-book, ou en français livre électronique, ou on peut aussi l'appeler le reader, dans lequel donc des géants du web comme Amazon se sont lancés, avec le Kindle aux États-Unis, bon, qui a un gros succès, qui vont bientôt lancer en France.
Ça veut dire quoi ? J'ai une sorte de palme dans ma poche et je fais avancer les pages avec mon petit stylet ?
Voilà, en gros c'est ça, voilà, c'est un support qui permet de lire. Alors il y a des techniques différentes selon les développeurs. Là-dedans, il y a beaucoup d'enjeux économiques, donc beaucoup de batailles, notamment autour des formats. Il y a des formats PDF, Mobi Pocket, HTML, etc. Tous ces termes un peu barbares, mais en tout cas, derrière ça, il y a des enjeux, des batailles. Mais globalement, je dirais que même si les gens ont du mal à s'accorder, on a eu la grande bataille entre les différents éditeurs et Google, il y a la volonté de faire rentrer le livre dans nous, ce qu'on appelle dans l'article, l'ordre numérique. C'est-à-dire, il s'agit de réussir à faire que le livre passe de sa forme papier à une forme numérique. Ça passe par le développement des appareils, comme on l'a dit, par la numérisation massive. Donc globalement, on est dans cette stratégie-là. Donc on a essayé aussi de voir un petit peu comment les différents acteurs du monde du livre réagissaient à ces logiques-là, et on constate que si bon, des géants de l'édition comme Hachette pensent à un basculement numérique qui pourrait, je pense que ça, ils ne peuvent pas le dire, leur être profitable, la plupart des acteurs du monde du livre sont quelque peu sidérés par ce qui se passe et opèrent une numérisation massive. Ces appareils commencent à se développer, en tout cas les entreprises qui les lancent font le forcing de tous les côtés pour dire de toute façon, à terme, le livre va disparaître, donc il faut absolument, si vous voulez survivre, les acteurs du livre, donc librairies, on veut les transformer en médiateurs numériques, les éditeurs, il faut que vous basculiez vers le numérique si vous voulez pouvoir continuer à faire votre métier.
Moi, ce qui m'intéressait dans votre papier, c'est un paragraphe où vous opposez la solitude face à tous ces savoirs, c'est-à-dire que je suis devant tous ces savoirs, mais je suis seul, que vous opposez à l'idée d'éducation populaire, c'est-à-dire il ne faut peut-être pas avoir tous ces savoirs devant soi, mais peut-être que discuter d'un texte ou discuter de quelque chose, d'avoir un contact physique et direct est plus enrichissant que cette solitude face à ce capital.
Il y a une question qui est fondamentale que vous posez, c'est celle de la technologie, dans quelle mesure est-elle politique? Et moi, je crois qu'elle l'est fondamentalement. Toute technologie transforme notre rapport au monde, notre rapport aux autres, le rapport qu'on a au sein de la cité, au sein de la police au sens grec. Donc, c'est-à-dire, elle est politique en ce qu'elle transforme le monde. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que l'instauration de cet ordre numérique, le déferlement technologique auquel on fait face aujourd'hui, c'est quelque chose qui va transformer les relations aux autres. On en a évidemment déjà tout un tas de moyens de voir un petit peu ces effets aujourd'hui, à commencer par Facebook évidemment, mais une chose est claire, c'est que dans le cas de la lecture, le livre ne peut pas être réduit uniquement à son contenu. C'est l'espèce de hold-up sur la pensée qui est fait aujourd'hui en disant oui, ben, on va mettre toutes les idées sur Internet, comme ça tout le monde aura accès à tout. Je crois qu'il y a quelque chose de faux, de biaisé dans cet argument, dans la mesure où se construire une culture, une réflexion, être capable d'avoir une distance critique face aux choses qui se passent, face aux discours politiques qu'on peut entendre, etc., ça ne se fait pas dans l'immédiateté, ça ne se fait pas en se noyant dans une masse d'informations.
Ça ne se fait pas tout seul face à un écran.
Exactement. Et vous avez tout à fait raison de citer la question de l'éducation populaire, parce que contre les idées ultra-libérales et même libérales, jusqu'à un certain point libérales tout court, qui ont été mises en place historiquement par un certain nombre de dominants économiques, les mouvements d'émancipation ont bien souvent revendiqué justement l'idée d'éducation populaire, le fait de ne pas être seul face au monde, pas seul face au savoir.
Ouais, mais numérisation et éducation populaire sont compatibles.
Eh bien, justement, je crois qu'on ne peut pas le poser comme ça pour ne serait-ce qu'une chose, c'est qu'on nous dit oui, le numérique, c'est bien parce que ça va donner plus d'accès aux choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème de l'éducation, du savoir et même de la politique en général, c'est celui de l'accès des bibliothèques? Il y a une personne sur deux qui les fréquente en France. Le livre, c'est quelque chose avec lequel, de près ou de loin, énormément de gens ont un rapport très, très cher et très précis. Donc, je crois que ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est que ce n'est pas cette question de l'accès qui change tout. Il y a déjà beaucoup d'accès, mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que cet accès va être la chose qui va tout bouleverser, alors que dans le fond, c'est surtout une opération en grande partie économique.
Cédric, encore un mot ?
Oui, non, je dois dire que par rapport au savoir, nous on pense que le savoir ne naît pas d'une accumulation, d'une mise en disponibilité de tout, mais qui passe avant tout par des médiations, et on pense que justement la culture Internet, la culture numérique qui se développe, elle détruit justement ces médiations, ces structures intermédiaires, elle les affaiblit. Donc dans le cas du livre, ça va être le rôle du libraire, le rôle de l'éditeur, voire même peut-être un jour le rôle de l'auteur, elle les affaiblit. Et nous, on pense qu'au contraire, c'est dans ces structures de médiation que se niche la culture, que se niche l'apprentissage, que se nichent les vrais projets, des projets éducatifs, et donc elles naissent dans des structures collectives, et qu'une société est avant tout un ensemble d'organismes de médiation, avant tout d'être un agrégat d'individus, seul face à une masse de connaissances, avec leurs prothèses technologiques entre les mains.
Grèche.
Moi, je voudrais un peu élever une voix un peu dissidente par rapport à ce qui est dit. En tous les cas, interrogative, je n'ai pas une opinion très, très ferme. Mais d'abord, la liquidation de l'éducation populaire, franchement, elle a commencé dans les années 50 et bien avant l'arrivée d'Internet. C'est vrai aussi que face au livre, on est tout seul. Je veux dire, que le livre soit imprimé ou d'un écran, on est tout seul. Je veux dire, qui ait besoin de l'éducation populaire, moi, je n'ai aucun doute là-dessus, et que notre société manque justement de structures collectives d'éducation. Je suis d'accord, mais je ne suis pas convaincu que le fait d'avoir un livre sous forme électronique soit une telle révolution et un tel changement par rapport au livre papier. La disparition des éditeurs, ça fait des années qu'on la constate, bien avant Internet. Il y a la multiplication des titres en France. Moi, comme auteur, je sais très bien, les éditeurs ne relisent plus les manuscrits, on publie de plus en plus de titres qui ne sont pas relus. Ça, c'était bien avant Internet. Alors bon, d'une certaine manière, la numérisation de l'ensemble du savoir est une avancée, parce que ça nous donne accès à tous, à énormément de choses. Que ça ne règle pas le problème de l'éducation populaire, je crois que c'est tout à fait vrai. Mais je pense que, je serai moins radical que les auteurs, en tous les cas.
La base est ici.
Я нахожусь на посижении. На посижении.
On va continuer avec Alain Grèche, on va sur un tout autre terrain, celui du Proche-Orient. On a eu, Alain Grèche, au mois d'août, dans le Monde diplomatique, un papier sur le Proche-Orient vu d'Afrique du Sud. On a compris tout de suite le rapprochement, c'est celui de l'apartheid. Et là, vous revenez là-dessus, enfin, le Monde diplomatique revient là-dessus, conforté par des comparaisons entre la situation en Afrique du Sud au temps de l'apartheid et ce qui se passe au Proche-Orient, des comparaisons faites par des gens comme Jimmy Carter, Nelson Mandela et récemment encore l'archevêque Desmond Tutu. Donc là, on a un papier qui nous dit mais le boycott a commencé envers Israël, y compris des désinvestissements.
Il y a trois formes de sanctions, disons, à l'égard d'Israël, demandées par un mouvement qui est en train de se développer. C'est le boycott, c'est-à-dire le refus d'acheter des produits, notamment ceux qui viennent des colonies israéliennes. Le désinvestissement, c'est-à-dire, ça c'est une chose à laquelle en France on n'est pas tellement habitué, mais qui pour l'Afrique du Sud a joué un très grand rôle. À la suite de mouvements populaires, un certain nombre de fonds d'investissement, américains notamment, et britanniques, se sont désinvestis de l'Afrique du Sud, parce qu'il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça a eu des conséquences économiques et politiques importantes. Et les sanctions. C'est-à-dire ceux qui demandent que les gouvernements du monde prennent des sanctions à l'égard des violations du droit international. Donc voilà les trois volets. Il y a eu récemment, je veux dire, c'est arrivé après l'apparition de l'article, le fonds norvégien pétrolier, en fait, qui est le gros fonds d'investissement créé à partir des ressources pétrolières, s'est désinvesti il y a quelques jours d'une société israélienne qui travaille dans les territoires occupés, au nom du refus de la violation du droit international par Israël, notamment le refus par Israël de mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de justice concernant le mur. Vous savez que Israël a construit un mur, mais que ce mur a été condamné par la Cour internationale de justice il y a 5 ans et qu'il n'y a eu aucune conséquence. Évidemment, il y a un débat très important, y compris dans le mouvement de solidarité avec les Palestiniens. Récemment, il y a eu Uri Avneri, qui est un militant incontestable de la paix, et quelqu'un de très radical, qui lui pense...
Israélien,
qui lui pense que ce n'est pas une bonne forme d'action. Mais c'est quand même...
Oui, parce que ça a toujours des conséquences sur les citoyens.
C'est-à-dire, ça a des conséquences sur les citoyens. C'est vrai que les sanctions posent toujours problème. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un rapport entre ces sanctions et le mouvement à l'intérieur. Disons que les sanctions sont demandées massivement par les organisations palestiniennes. Évidemment, la plupart des organisations israéliennes ne les demandent pas. Donc là, effectivement, ça pose un problème. C'est un des arguments avancés par Avneri en disant que les sanctions ont pu marcher en Afrique du Sud parce que la majorité de la population les voulait. Enfin, la majorité, c'était les Noirs. La majorité des Blancs n'en voulait pas. Alors que chez nous, ça ne peut pas marcher parce que la majorité de la population israélienne est contre.
Oui. Ce que dit Uri Avneri, comme vous le relatez, c'est qu'effectivement, l'opinion israélienne risque au contraire de se refermer encore plus sur elle-même.
Oui, enfin,
et sur la politique de son gouvernement actuel.
Oui, le problème, c'est qu'elle s'est déjà largement
refermée,
qu'elle est déjà largement derrière des politiques gouvernementales. La question est de savoir, est-ce qu'il y a un prix à payer à l'occupation ? Et je veux dire, Israël fait la preuve depuis 40 ans qu'il n'y a aucun prix à payer à cette occupation. Ni en termes militaires à l'intérieur, ni en termes politiques internationaux. Jamais les relations du gouvernement israélien avec les gouvernements européens et américains n'ont été aussi bonnes. Donc, il n'y a aucun prix. S'il n'y a aucun prix à payer à cette occupation, pourquoi arrêter l'occupation ? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la société israélienne profite de cette occupation largement, pas seulement en termes politiques, mais en termes économiques aussi. Donc l'argument, c'est de dire il faut effectivement faire payer cette occupation, non pas parce que c'est l'occupation, mais parce que c'est une violation de dizaines de résolutions des Nations Unies, de la Cour internationale de justice, etc.
Voilà, merci à tous, merci à Serge Halimi, Maurice Lemoine, Anne-Cécile Robert, Daniel Linard, Cédric Biagini et Guillaume Carnino, et ainsi qu'Alain Grèche, qui était le dernier intervenant. Vous pouvez trouver beaucoup d'autres articles dans Le Monde diplomatique de ce mois de septembre 2009. Bien entendu, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez faire des commentaires qui sont toujours attendus et qui d'ailleurs s'améliorent en qualité ces derniers temps. Merci à tous. À la technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Nicolas Lapert, Koye Nguyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, modeste et géniale, assistée d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et puis encore un mot sur les repères de là-bas si j'y suis, qui reprennent de partout. Soyez aimables, amis AMG des repères, de nous envoyer des messages courts pour annoncer vos réunions. 15h59 minutes et 30 secondes, réclame.